Message à caractère informatique.
Message à caractère informatique.
Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Message à caractère informatique. Épisode numéro 141. C'est toujours la rentrée, il fait toujours moche à Brest. Nous sommes toujours le 1er septembre et je suis Horacio González, aujourd'hui entouré de gens merveilleux tels que... Derrière ce mug bizarre, il y a Pierre. Coucou Pierre.
Bonjour Horacio.
Et qui peut se cacher derrière Montesquieu? Bah, c'est Jean-Baptiste.
Bonjour.
Et derrière la cape d'invisibilité, non, ce n'est pas Harry Potter, c'est Nicolas. Bonjour Nicolas.
Bonjour tout le monde.
Les effets spéciaux.
Ah bah attends voilà. c'est la rentrée, c'est les effets spéciaux, c'est le budget
augmenté. On va refaire un petit tour de table. Pierre, tu nous rappelles qui tu es?
Oui, du coup, je m'appelle Pierre Zem, je travaille à Clever Cloud sur tout ce qui est les systèmes distribués et les bases de données.
Et Materia. Materia. Guibé, qui tu es?
Alors bonjour, Jean-Baptiste Kaiser et je travaille dans l'équipe orchestration, donc on gère toutes les VM et aussi le produit Kubernetes Manager.
Nickel. Et notre invité du jour, Nicolas, tu nous rappelles qui tu es?
Bien sûr, je m'appelle Nicolas Lringer, je suis l'un des fondateurs et le CTO de Resilience, une société qui travaille dans le monde de la santé. On fabrique des dispositifs médicaux numériques, donc des logiciels qui servent à faire de la télésurveillance pour les patients et les équipes de soins dans le domaine de l'oncologie, donc traitement du cancer, de l'immunologie et de la psychiatrie.
Parfait. La psychiatrie, vous ne le faites pas depuis très longtemps parce que j'avais complètement oublié.
Non, c'est effectivement, on a démarré le développement de la solution fin d'année dernière. On a fait nos dépôts de dossiers de certification dispositifs médicaux. On a les dossiers de remboursement anticipé de médicaments numériques qui sont en cours. Et on a notre première étape clinique de validation dont le recrutement a commencé. Donc le sujet est tout frais, tout neuf en cette rentrée. Ça s'appelle EDRA, by Resilience.
D'accord. J'imagine même pas toutes ces études qu'il faut faire et toutes ces parties-là pour... Quand tu parles des médicaments numériques et des dispositifs médicaux, c'est quand même assez... Quelque part, tu as dit c'est des softs, mais c'est un médicament numérique.
C'est un truc dont on est assez fier chez Resilience. On a été... les premiers en France, en Europe, à avoir un remboursement pérenne, c'est-à-dire un remboursement comme un médicament normal, comme un même niveau que le Doliprane, en fait. Wow. C'est un remboursement tout sur 3 ans renouvelable. Il y avait eu avant nous des remboursements d'expérimentation, ce qu'ils appellent des PECAN, sur du numérique, mais on a un peu ouvert la voie sur ce sujet-là. Et donc, alors, quand on parle de remboursement par la sécurité sociale, c'est un peu galvaudé parce que c'est pas les gens n'achètent pas leur logiciel en pharmacie pour ils se font rembourser après. C'est un financement qui est fait dans le lien avec l'hôpital. Mais c'est du financement par la sécurité sociale. Cette porte, elle a été ouverte à la loi de finances de l'année 2022, si je me souviens bien.
Excellent. C'est bienvenu vu comment on voit l'état des services de psychiatrie.
Alors c'est bien pour plein de pas que sur la psy, c'est un triptyque assez intéressant, parce que ça permet d'avoir un meilleur suivi des patients qui ont moins besoin de se déplacer en centre de soins. Ça donne aux équipes de soins des outils pour piloter plus de patients. Nous, on a des ratios, ce qu'on appelle des IPA, des infirmières de pratique avancée, qui font le suivi des patients en local et à distance. Avant l'ère numérique et les outils modernes, gérer entre 50 et 70 patients par jour. Là, on a notre record woman chez nous, c'est une infirmière aux hôpitaux de Marseille. Elle gère 650 patients par jour, on a fait x10 sur la capacité de gestion. Et donc forcément, les équipes sont moins stressées, elles gèrent mieux, c'est c'est moins coûteux de mettre à l'échelle. Et c'est meilleur pour les finances publiques puisque ça fait baisser, c'est démontré avec une étude clinique, ça fait baisser le nombre de jours, de séjours à l'hôpital et en particulier en urgence qui coûte très cher. Donc faire en sorte que les gens soient mieux soignés, c'est bon pour tout le monde en fait, pas que pour les patients. C'est efficace d'un point de vue économique, pas pour réduire les dépenses, mais pour être plus efficace et gérer le nombre de patients à l'échelle quoi. Donc non, c'est une très très bonne nouvelle pour tout le monde.
Trop bien.
Carrément.
Bravo.
Bah oui.
Eh bien, merci.
Bon, allez, on va continuer parce que dans l'épisode précédent, on avait laissé plein de lianes qu'on n'avait pas explorées encore. Allez, je vais, comme l'épisode précédent, j'allais demander, oh mince, Pierre, tu peux nous parler de quelque chose?
Je tiens à préciser que je trouve toujours ton dé un peu pipé. Hein. Heureusement que tu fais pas du D&D chez toi.
Tu as fait un échec critique sur ton jet de persuasion, tu dois commencer.
Ah là là. C'est bien, j'étais pas du tout prêt.
C'est pour ça qu'il t'a choisi.
Je vais commencer par prendre. Je vais prendre ce lien-là. C'est un lien Blue Sky. Ah, attends, je vais le copier-coller tout de suite au bon endroit.
C'est un lien Blue Sky. Je ne me souviens pas de quoi ça parle. Laisse-moi cliquer.
Non. Alors, du coup, il y a. Moi, je suis spécialisé un peu base de données et j'aime bien apprendre et découvrir les trucs. Et notamment, j'ai passé quand même beaucoup de temps à lire et à creuser des bases de code de bases de données. Mmh. Ce qui n'est pas le truc le plus facile au monde quand tu n'as pas forcément un background base de données. Et au final, il y a assez peu de cours sur vraiment les internes des bases de données. Genre, comment ça marche un query planner, quels sont les types de query planner, les formats de stockage, vraiment la littérature et le côté académique des bases de données, il n'y en a pas beaucoup. Le cours le plus connu sur les bases de données, en fait, il est disponible gratuitement. Ça, c'est un truc qui est vachement sympa. Et donc, du coup, comme on est en septembre, la nouvelle saison commence. Et donc, vous avez le cours du CMU. Donc, c'est le Carnegie Mellon University qui a un cursus de base de données qui est extrêmement intéressant. Donc, il commence là la partie intro. Donc, c'est un truc qu'ils font depuis 4-5 ans, non, même voire plus. Tous les cours sont disponibles sur YouTube. Les slides, les notes de cours sont accessibles sur le site officiel et vous avez le code source des projets qui sont disponibles sur GitHub. Donc si vous voulez découvrir les bases de données, c'est vraiment le cours. Moi, j'ai appris tout là. Enfin, toute la partie, on va dire un peu plus, on va dire théorique, c'était vraiment le truc. Alors, il y a du contenu, hein. C'est, faut regarder, faut faire, pas trop faire de trucs à côté, quoi. C'est un cours académique, un peu énervé, mais c'est passionnant et il y a différents niveaux. Il y a intro, il y a advanced, et après, il y a un autre truc, je crois. Mais, plutôt chouette.
Et ouais, ça n'a pas l'air d'être easy listening, effectivement, ouais.
Et c'est le moment où il y a kidnap. Les trucs, mais si c'est trop pour vous et vous voulez simplement une brève et solide introduction, notre cher Pierre a fait un deep dive de 3 heures à DevOps France l'année dernière, donc je vous laisse aussi les liens. Il y a 200, il y a, oh, le temps passe trop vite. 300 déjà, bon, il y a un deep dive de 3 heures d'introduction aux bases de données par Pierre, que c'est une des meilleures introductions en français que vous pouvez trouver. Je vous laisse les liens aussi.
C'est gentil. Ce qui est littéralement un résumé de l'intro où j'ai piqué mes morceaux les plus intéressants du CMU, de l'intro du CMU. Il y a 3 ans maintenant, je peux révéler les secrets, mais c'est littéralement un résumé. Hein.
En quoi Pierre utilise lui-même les mêmes techniques que l'LLM.
Et est-ce que ce cours est un cours purement magistral ou il y a également des TP ou des choses comme ça pour
t'as des TP, ouais.
Ok.
T'as des TP et justement, Andy Pavlov, qui est le gars qui fait le cours, il dit que maintenant les projets vont être plus challengeants parce que t'as le droit au LLM.
Ah.
Et là, c'est la bonne façon de faire. J'ai fait une parenthèse, j'ai lu un peu trop souvent des articles de comment on va faire pour maintenant que les élèves font de l'LM. Là, ça me semble une belle approche. C'est simplement l'LM va aider dans la complexité, mais si tu ne connais pas ton cours, ça ne va pas tellement pouvoir te sauver à ce niveau-là. Donc, je trouve que l'approche est une approche bien intéressante.
Bah, clairement, pour le coup, j'ai eu cette expérience-là l'année dernière, puisque je fais des vacations dans mon ancienne école d'ingé, et c'était posé la question de savoir comment gérer le projet final, un peu de l'examen final, de telle sorte à ce que ce soit pas juste du LLM, du recrachage de LLM, mais que comment vérifier en fait finalement que les acquis ont bien été intégrés par les étudiants et les étudiantes. Et ça, c'est un vrai défi pour le coup. Et lorsque j'ai fait ce cours-là, j'ai simplement interdit les LLM. Mais je pense que avec du recul, c'était pas du tout la bonne approche et probablement que beaucoup de gens l'ont fait quand même. Et donc c'est pas évident d'adapter, on va dire, les méthodes éducatives, surtout dans des domaines peut-être un peu plus spécialisés, avec l'intégration des LLM, quoi.
Ah non,
c'est vrai que pour le coup, de dire que ok, vous avez le droit d'utiliser de l'IA, mais par contre les projets vont être plus difficiles, c'est quelque part une solution qui semble assez satisfaisante.
Moi, je donne aussi des cours et j'ai remarqué que maintenant, je peux aller beaucoup plus loin dans les projets et pas parce que les élèves s'impliquent plus avec la même implication d'élèves et l'LLM. Les élèves qui sont intéressés vont aller beaucoup plus loin dans les projets. Donc,
oui. Simplement,
avant où j'ai proposé en gros un projet à trous, maintenant je propose un projet.
D'accord.
Et là, le résultat est assez impressionnant. Bon, tu dis, oui, c'est clair qu'ils ont été aidés par l'LLM, mais tu vois la différence entre ceux qui ont compris les cours, qui ont suivi, et les autres qui, même avec l'LLM,
Ils comprennent. Ouais, pareil, même constat, je donne aussi. Pardon, je donne 7 heures de cours tous les ans, c'est pas beaucoup, mais à chaque fois, je remarque que ils utilisent. Enfin, je peux augmenter la quantité de code que je demande au TP au fur et à mesure des années par le fait qu'en fait ils ont un outil qui leur permet de bootstrapper du code. Et je pense que c'est ça pour des étudiants, c'est souvent bootstrapper et avoir un usage, un premier jet qui aide vachement.
C'est ça, parce qu'avant c'était la partie qui bloquait, dès que tu demandais un projet. Si simplement bootstrapper le projet et te mettre en place pour pouvoir faire les premiers points, te prenais déjà une heure, c'était compliqué. Et c'est pour ça que j'ai fait des projets à trous. J'ai initialisé le projet, maintenant tu me fais ces méthodes-là. Maintenant, c'est non, tu fais le projet et je peux te guider sur les parties qui m'intéressent. Et là, le résultat est assez impressionnant, oui.
Et du coup, ce que vous faites, c'est que vous identifiez les points critiques, on va dire, là où ça aurait été à trous autrement. Et c'est ces parties-là qui sont centraux. Parce que du coup, il y a la question du bruit, on va dire, produit par le LLM autour du travail de réflexion. Et pour pouvoir extraire le travail de réflexion, il y a une certaine forme de...
Moi, j'ai pas d'évaluation.
Ah!
Ça aide le sujet, tu vois. Moi, globalement, mon ancienne école d'ingénieur me donne un créneau de 7 heures. Ils me redemandent même pas l'énoncé. Ils savent même pas ce que je vais faire. Ils savent que je vais raconter 7 heures Pierre vient à l'école et raconte des trucs, hein. C'est un peu ça, moi, le cours.
Parce que moi, j'ai 35 heures et ça doit être noté et tout, donc.
Ah oui, non, moi, j'ai pas le même game.
C'est paradoxalement dans la partie à trous. Que ce que je demande, c'est de faire bien les choses, de ne pas ajouter, de ne pas se disperser. Et c'est justement la partie dans laquelle, avec les LLM actuels, tu peux plus facilement voir si c'est fait ou pas. C'est quelque part, si tu fais un petit éloge de la simplicité, c'est là que tu le vois bien, quoi.
Okay.
Ouais, ce que vous dites tous, en fait, avec des expériences différentes, c'est que le truc qui a changé, c'est qu'il faut revoir la façon d'évaluer la mesure de qu'est-ce que les gens ont appris et comment ils l'ont appris, quoi.
Ouais,
mais
c'est ça.
Vous savez que ça existe depuis hyper longtemps, hein, ce paradigme de trouver chez les, chez les élèves. Qu'est-ce qui est d'eux et qu'est-ce qui est pas d'eux, parce que les parents qui aident leurs gamins à faire leur rédaction le week-end, ça existe depuis très 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 longtemps, hein. Donc le LLM, tu le vois, le différence de niveau de langage, d'application, d'un devoir sur l'autre. Donc ça, c'est pour les professeurs qui ont l'habitude, en fait. Ouais, c'est une autre forme d'aide. C'est la copie entre élèves aussi, les copies similaires.
Ça, on les voyait dans l'école primaire et dans les collèges. Mais quand tu donnais des cours à l'université, tu pouvais supposer que l'élève, il le faisait lui-même. Mais quelque part, c'est ça. C'est l'équivalent au prof de collège qui arrive avec une rédaction de 27 pages et parfaite à tous les niveaux, structure,
sans jusque là, ils étaient pédards, mais maintenant, ah mince, on a aussi ça à gérer, zut.
C'est ça. Mais tout ça pour dire que sur ces côtés-là, sur la évaluation, moi j'aime beaucoup l'idée de on peut aller plus loin et on peut demander des projets que c'est moins de jouer fait pour les cours que de vrais projets. Et quelque part, j'ai discuté aussi avec des gens qui sont en Epitec ou en Carandé, comment ça fait aussi évoluer les projets piscine et tout ça, de fait que maintenant, ça peut aller aussi beaucoup plus loin. Et donc, il y a aussi un intérêt, à mon sens, pour l'élève, parce que maintenant, il peut faire des vrais projets versus des projets joués. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais. C'est beaucoup plus satisfactoire à la fin. Ok, il y a l'LLM qui m'a aidé, mais j'ai fait un truc que, waouh!
Tu peux aller beaucoup plus loin,
Ah, puis t'as intérêt à embrasser le truc, parce que tu formes des gens pour qu'ils soient compétents dans le monde de demain, dans lequel ils vont travailler, et dans le monde de demain, il y aura des LLM. Donc, se dire je les interdis parce que c'est pas ça que je veux évaluer, en fait, ce serait contre-productif par rapport à l'environnement professionnel dans lequel les gens vont arriver.
Bien sûr, Là, l'idée, c'était plus de se concentrer sur le cœur d'évaluer, on va dire, des connaissances fondamentales, mais effectivement, c'est dans la pratique et dans le côté travaux pratiques, etc., ça a moins de sens aujourd'hui. Après, je leur ai fait implémenter Discord. Réimplémenter Discord. Donc en fait, peut-être qu'il aurait fallu mettre des LLM.
Un petit week-end et c'est torché, tranquille.
Il y a un groupe qui m'a fait ça en un week-end.
Je peux faire mon petit lien.
Il y a toujours des gens qui sont.
Ça me rappelle quand en 96, en école d'ingénieur, oui, Pierre, tu avais une année.
Oh, et où
oh, deux ou trois. En 96, en école d'ingénieur, on nous a fait faire un examen en C. À la main, dans la salle d'ordi, mais à la main sous papier, parce que, comme il avait maintenant dans les ordis Mosaïque, un nouveau navigateur et des tutoriaux de C, il ne voulait pas qu'on triche, et donc il a rétrogradé les examens pour qu'on les fasse à la main. Et
écrit. J'ai fait tous mes examens sur papier. Tous mes partiels ont été faits sur papier. Java, C, C++, tout sur papier.
Mais en fait, la compétence, c'est d'utiliser tous les meilleurs outils que tu as pour aller vite et faire efficace. C'est une super compétence d'avoir ça.
Bien sûr.
Mais on revient sur c'est quoi ce que tu testes. Et ce que tu testes, c'est est-ce que les gens comprennent ce qu'ils ont. Parce que ce que tu veux pas avoir en tant que moi, en tant qu'employeur de gens qui font du dev, c'est des gens qui bricolent des trucs et qui poussent des trucs en prod en disant genre t'inquiète, ça va chez Mar, et en fait c'est ça le truc, que ça sorte d'un LLM ou pas, tant que ça marche à la fin. Moi j'ai toujours dit depuis plus de 20 ans que je fais du management d'équipe de dev et d'autres, peu importe comment vous arrivez à faire bien votre boulot, si vous utilisez des outils qui font que vous allez être super vite, tout ça, je suis hyper content. Mais pas copier le fameux copier-coller de slash dot, et j'ai pas relu, et puis si ça pète, ah, qu'est-ce que ça fait? Oh, moi, je sais pas, c'est pas moi qui l'écris, ça, non. C'est ça qui est pas possible, quoi.
Bah, en tout cas, je pense que tout ça, ça va énormément évoluer, la méthode, les méthodes d'évaluation, la façon de donner des cours même, il est en train d'évoluer, donc je suis curieux de voir qu'est-ce que ça va donner dans quelques temps.
Bon courage à tous les enseignants, en tout cas, en ce jour de rentrée.
Ah oui, c'est clair. Et donc, on va continuer un peu dans les côtés LLM, avant de changer ce sujet, parce que aussi le mois d'août a vu la formalisation d'un truc qu'on commence à voir sous des différentes façons dans plein d'outils, c'est les agents.md. Depuis avant l'été, on avait commencé à voir plein d'outils qui généraient son propre fichier Markdown avec un résumé de contexte, ce qui permettait d'avoir des contextes moins gros, de fermer la conversation et la démarrer ou de changer de LLM et qu'il a tout le nécessaire pour travailler sur tes projets. Et un peu chaque outil utilisait son truc. Claude, il l'appelait Claude.md, d'autres c'était des fichiers sans nom, d'autres c'était des trucs que t'écrivais quelque part. Et là, il y a un standard de facto qui est apparu pendant l'été, c'est mettre à la racine de ton projet et ensuite dans la racine de différents sous-répertoires un fichier Markdown agent.md où tu expliques les contextes. Il y a plein de LLM qui l'ont mis de facto. Peut-être le plus connu qu'elle n'a pas encore fait, c'est Claude justement, qui propose de faire un lien symbolique entre Claude.md et Agent.md. C'est sympa comme système.
Ça
va. Mais en tout cas, ça, personnellement, pour l'avoir utilisé depuis avant l'été, ça change énormément la façon comme tu t'en sers. Avant, je faisais bien attention de ne pas fermer mon Windsurf pour ne pas perdre la conversation et devoir expliquer tout. Et là, il me fait le résumé qui va bien, il le met à jour, il l'actualise avec les règles, avec le fait pas ci, fait pas ça, et ça c'est l'objectif et tout. Et là...
Comment?
Oui.
Vas-y, fini, excuse-moi.
Et là, ça permet de... Voilà, je ferme mon navigateur, je le réouvre ou je change de modèle et il va tout de suite être aussi performant que si j'avais passé le temps à l'expliquer ce que je voulais. Et quand on avance dans le projet, il le met à jour automatiquement et donc il n'a pas besoin de se trimballer en contexte monumental à chaque fois.
Comment tu fais la partie update, toi, justement, de tes CloudMD et autres...
L'update, il y a un lien symbolique en CloudMD, c'est un lien symbolique qui pointe vers l'agent.md.
Moi, j'ai souvent du mal à maintenir à jour ce truc-là.
Il y a un lien symbolique. Et après, pour mettre à jour le contenu...
Le contenu, oui. Moi, je
une des premières choses que j'écris dans l'agent.md, c'est à fur et à mesure que le projet avance, déjà, il y a une section par rapport à ce qu'on travaille et je lui rappelle, tu le remets à jour.
C'est peut-être cette ligne-là qui me manque, moi.
Justement, c'est le fichier où tu lui donnes les instructions. Donc, donnez-lui une instruction de maintenir le fichier à jour.
Oui, je vais peut-être ajouter.
Et c'est super. Et donc, le site agent.mpluriel.md, c'est la spécification vivante des standards de facto, on va dire. Et il y a plein de monde qui poste des articles de blog et de comment ils s'en servent. Tu vois qu'il y a plusieurs écoles pour le faire. Personnellement, j'ai fait à fur et à mesure une façon qui me va très bien. Je pense qu'il y a sûrement des façons plus intelligentes de faire, mais en tout cas, moi, ça m'aide énormément et surtout, ça élimine mon truc de « j'ai pas envie de devoir initialiser la conversation ». Et du coup, je coupe très souvent Claude quand j'ai chance de feature, je pars d'un contexte propre, j'ai l'impression que ça donne des meilleurs résultats et il garde toujours en tête les fondamentaux de mon projet.
Moi, j'avais le souci de réussir à maintenir ce truc-là un jour où je trouvais que ça divergeait vachement, mais du coup, il me manque peut-être la petite instruction en lui disant « mets-toi à jour ».
Au fait... Comme j'avais commencé avant que l'agent.md soit une chose, j'avais commencé avec Windsurf, au début, j'ai commencé à l'expliquer, écoute, dans ce fichier-là, il y a les instructions que tu dois suivre, les contextes, il est important que tu les maintiennes à jour, quand on ajoute de nouvelles fonctionnalités. J'ai la use au début, que peut-être ce n'est pas optimisé. C'est un peu comme la use que je donnerais à un stagiaire avant de travailler sur le projet. Je garde ces métaphores en tête. Moi, je me sers beaucoup de l'IA comme un stagiaire. je lui donne un maximum d'informations, je le laisse explorer, mais pas trop, et je ne le laisse pas committer quoi que ce soit dans mon dépôt guide, sans que ça soit moi qui le regarde d'abord. C'est ma méthode, je suis content.
Oui, c'est cool, je vais peut-être tester pour voir.
Bon, qui va prendre un autre lien pour commenter?
Je vais proposer un des liens que j'ai mis.
Oui.
Alors, je vais redonner le cadre. C'est un lien sur un podcast, une des instances du podcast de TechRocks, qui est une communauté de managers tech français qui fait son summit avec tout un tas de talks fin de cette année.
Oui.
Et le sujet cette année, c'est, enfin, l'un des sujets centraux, c'est l'IA et comment on passe du bullshit à la réalité. Et là, l'instance que j'ai pointée avec le lien, c'est l'interview de Julien, le CTO de chez Le Bon Point, qui est interviewé par Marion, qui est une CTO Medical Device que je connais. Et leur discussion, et je trouve c'est un bon point de départ de comment ça se passe dans une boîte avec des vraies contraintes. Le Bon Point, c'est un business assez impressionnant. Ça parle d'expériences terrain réel. Alors pas que sur la partie IA, mais sur la partie projet, ce que je viens de piloter des trucs assez de transformation assez importante. Mais c'est pas le seul épisode intéressant où ça fait un petit tour d'horizon dans le podcast et ce sera repris lors du summit et du forum. 2 et 3 décembre de tête, je crois. Et je trouvais ça intéressant de voir que, au-delà de l'image qu'on peut se faire de la hype côté direction, manager et tout, il y a une vraie réflexion sur le la hype, c'est cool, ça fait lever des fonds, ça fait des trucs. C'est quoi la réalité et comment on réconcilie les deux? Et je trouve que c'est intéressant de voir qu'il y a pas mal de gens, en France en particulier, qui se disent oui, très bien, il y a, qu'est-ce qu'on en fait, et d'avoir des feedbacks, pas que de la partie technique, mais aussi structurellement, on essaye de faire en sorte que ça réponde à des vrais sujets. Vous regarderez et vous irez piocher des épisodes qui vous font pertinence, mais moi, je trouve, j'étais assez content de l'avoir écouté. Celui-là, il est sorti il y a une dizaine de jours maintenant. Et comme c'est des gens que je connais un petit peu, je l'ai écouté avec grand plaisir. Je sais pas quel est le niveau de feedback qu'on a chez Clever entre la hype de l'IA à tous les étages. Alors, Vivatec cette année, c'était vraiment le summum du top of the pop de la hype IA, où on en avait via un stand d'une grande marque française, enfin, d'un grand institutionnel français que je nommerai pas ici, où c'était marqué IA and much more. Ça voulait tout dire. C'était vraiment
Mais il n'y a pas que ça. Quand on va à des conférences, ce qui m'a surpris, je ne donnerai pas de nom, je n'ai pas envie de me fâcher avec des potes, c'est que la plupart des boîtes d'éditeurs logiciels qui éditent et qui font une base de données, un moteur de recherche, un outil quelconque, leur nouveau slogan, c'est machin truc avec de l'IA, l'IA pour machin truc.
AI-powered.
AI-powered machin truc. Et ce côté-là de vouloir mettre de l'IA à tous les sauces, je pense que c'est, si tu veux que les investisseurs soient contents, je pense qu'une des questions qui doit arriver maintenant, c'est qu'est-ce que vous faites avec de l'IA? Et donc, je comprends bien aussi ces bascules-là. Après, effectivement,
Faut se rendre compte hein, du chiffre de l'écosystème. C'est un peu comme quand Google a percé, a éclaté et que tout le monde a regretté de ne pas avoir mis des sous dans le projet à l'époque parce que ça a fait foi, whatever, côté investisseur. Vraiment les fonds actifs de démarrage ou de scale-up. Tout le monde s'est dit, genre, donc il faut faire des moteurs de recherche, donc ils cherchaient tous un projet de moteur de recherche. Et donc là, on est un peu dans le même truc, c'est les valorisations OpenAI, Mistral en France, ou Claude et tout ça, sont incroyables, donc ils se disent, comment je rate pas le nouveau truc?
Après, ce qui fait, c'est que m'embête un peu, c'est qu'il y a des gens qui, des coups, ils associent intelligence artificielle et bullshit. Et cet extrême-là, je trouve qu'il y a un peu une dichotomie, c'est soit c'est le hype total, soit c'est le bullshit total. Et moi, en tout cas, mon retour, et le retour de ce que je vois de l'utilisation qu'on fait côté Clever, c'est un super outil. C'est pas les hype, c'est pas les trucs ultimes. Non, mais c'est un très bon outil. Et c'est pas du tout de bullshit, au moins pour plein d'utilisations qui fait, mais c'est pas non plus la solution à tous les problèmes de l'humanité, quoi. Et j'aimerais bien voir plus de regards nuancés sur
ça. Sur Ratio, tu sais très bien que la nuance n'est pas le propre de l'homme, ça saurait depuis le temps.
Pour le coup, c'est une dialectique qui est assez présente dans beaucoup d'innovations à chaque fois, avec une innovation d'un côté, qui en plus a des avantages économiques parce que ça permet, enfin ça fait tourner un petit écosystème de gens qui se financent, qui machin, qui truc, qui permet de créer, créer de l'argent, etc. Et de l'autre côté, il y a une réponse qui est une réponse anti-IA qui vient en opposition. Et ensuite, par cette dialectique-là, au bout d'un moment, il y a un dépassement de à la fois de la hype et de l'anti-hype pour aller vers quelque chose de plus mature sur l'écosystème. On a vu ça aussi dans d'autres domaines, hein. Il me semble que c'était le cas du microservice quand c'était très à la mode, et où ensuite l'anti-hype en chef DHH qui allait dire qu'il a tout ramené chez lui, qu'il a fait du monolithe et compagnie, et puis à la fin on a dépassé ce truc-là, et aujourd'hui les gens, de manière générale, il y a une vision plus rationnelle là-dessus.
Mais c'est là où je ne suis pas complètement d'accord avec toi, parce que justement les microservices, c'était un hype et un anti-hype dans un petit microcosme. C'était un truc de techos où on était quatre fanatiques à dire oui, 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 non, non, non. Voilà. Là, l'IA, ça a pris une importance. Moi, vous êtes trop jeune, à part Nicolas, vous êtes venu, mais ça me rappelle au début d'Internet, en plus avec les mêmes types de discours. Ouais, voilà,
pour avec la même bulle aussi.
D'aller sur un navigateur pour lire le journal, tu descends au kiosque et tu achètes le journal. C'est l'équivalent de pourquoi tu as besoin de. Quand les gens disent maintenant pourquoi tu utilises l'IA pour chercher ça, utilise Google simplement. C'est le même type de personne qu'il y a.
Ouais, mais Horatio, quand tu te rends compte. Dit,
pourquoi tu utilises Google plutôt que.
Aujourd'hui, plus. Aujourd'hui, le milieu du newspaper, justement, du papier journal, machin, aujourd'hui, il est complètement disrupté, il a complètement changé. Donc, on ne peut pas anticiper le fait que l'IA a l'air d'avoir un potentiel de changer la société de façon assez profonde. Donc, c'est ça, en fait, qui fait que tout d'un coup, les gens se disent jusqu'à quel point ça ira. Alors, entre les prophètes qui disent que il y a l'IA générale, la conscience va apparaître dans l'année ou pas, machin, et les gens qui disent ça fera prout et ce sera un outil comme un autre, voire pas terrible, la vérité est entre les deux. Il y a une grande marge entre les deux. Ça va avoir, mais c'est un peu comme au début de l'informatique où les gens disaient genre oui, ça remplacera pas les gens qui travaillent. Et tu fais, il y a quand même pas mal de boulot de déplacement. L'informatique simple a complètement fait disparaître des boulots de gens qui déplaçaient de l'information dans le milieu bancaire, dans les services courriers. Enfin, moi, j'ai commencé à travailler avant l'an 2000 et dans l'une des tours bancaires dans lesquelles je travaillais, il y avait un service courrier qui déplaçait des courriers papier toute la journée. Il y avait 200 personnes. Vous imaginez la tête du service courrier aujourd'hui dans cette même boîte, dans cette même tour de 5000 personnes. Ça a complètement changé la vie. Et pareil, dans le milieu bancaire, où on écrivait des comptes, des livres, puis des fichiers, puis des machins. Et donc, le potentiel de l'IA sur transformer le travail d'une... Et on ne sait pas bien dire à quel point ça va changer. Les développeurs, développeuses se demandent même aujourd'hui, est-ce que mon métier a de l'avenir dans 5 ou 10 ans? Parce qu'on ne sait pas. Et moi, je pense qu'il y aura toujours besoin de gens pour faire un certain type de travail à créer des logiciels. Le métier va changer plus ou moins. C'est dur de dire à quel point. On en parlait dans le massif de l'épisode d'avant. Mais forcément, ça draine, comme ça a un impact sociétal. Alors que les microservices, honnêtement, l'impact sociétal, effectivement, ça a arrêté assez vite. Non, mais c'est cet impact sociétal qui crée cette... Alors, bulle, bon, on pense tout de suite bulle financière, mais cette bulle médiatique avant tout, en termes de comparaison, et c'est pour ça que les gens en parlent beaucoup, en disant, genre, à date d'aujourd'hui, est-ce que le commun, la vie de tous les jours de la majorité de la population a été changée par l'IA? C'est discutable. Est-ce que demain, ça risque de... Ouais, tu te dis, ça risque de gratter un peu quand même.
C'est clair. Mais justement, c'est... J'espère qu'on arrivera relativement tôt au point de plus de hype et anti-hype et voir comment est-ce que on anticipe et on essaye de préparer les changements qui vont arriver. Je veux dire, je pensais qu'Internet, voir la révolution que ça a été et comme ça a changé littéralement le quotidien, bah, ça nous aurait appris à gérer ce type de changement. Et ce qui me chagrine, si tu veux, c'est que voir que 25, 30 ans après, il y a même les smartphones, pareil, il y a un nouveau truc qui arrive avec un potentiel de changement inouï et on est à nouveau à ne pas essayer d'anticiper qu'est-ce que. Et de préparer la société, mais plutôt à faire les pour et les contre et les articles générés par IA d'ailleurs sur comment la IA va nous détruire ou comment la IA va sauver l'humanité.
Bah, écoute, peut-être que c'est... Alors, je ne sais pas, à ce moment-là, on tombe dans la sociologie. Est-ce que c'est juste en termes de groupe, l'être humain ne sait pas faire autrement pour gérer les disruptifs changements. Est-ce que quand le mec qui arrivait avec un bâton avec du feu au bout du truc, est-ce qu'il y a eu les anti-feux, les pour-feux, et ils se sont mis sur la gueule et ça fait une hype de fou, alors à la taille ou
du nombre de gens.
Apparemment, un grand feu. Apparemment, mais tu dis, est-ce que c'est pas un processus de la...
Je te dirais que oui.
Apparemment, avec la voiture, c'était pareil. Les gens qui voulaient simplement des chevaux plus rapides, quoi.
Je sais pas si vous connaissez la légende, alors je sais pas si elle est vraie, de l'histoire de l'arrivée de la pomme de terre en France avec Monsieur Parmentier.
Ah oui.
Où pour imposer la pomme de terre et pour faire en sorte qu'il y ait de la hype autour, Parmentier a planté des pommes de terre et les a fait garder jour et nuit par des forces armées de façon très importante pour dire, pour montrer que ça avait de la valeur, parce que les gens étaient plutôt genre, c'était toutes les histoires
ça
de religion.
Dans la terre,
Ouais, ça vit dans la terre, donc c'est le mal, les fruits c'est en haut, c'est le bien et tout ça, donc il y avait toute une échelle de valeur sur la nourriture qu'on a complètement perdu aujourd'hui, enfin quasiment, et les gens ne voulaient pas en manger parce que ça poussait dans la terre, et il a contre-hypé le truc en mode genre on met des gardes, on les protège parce que ça a beaucoup de valeur et il laissait les voleurs malgré tout les voler pour créer une contre-hype qui est mais en fait ça doit être super, faut les manger, et je trouve ça génial en termes de propagation d'innovation de
c'était gardé que la journée et la nuit c'était pas surveillé pour
c'était peut-être
les gens
c'est ça. Communication dans le dernier épisode
C'est après, ça s'est aussi beaucoup développé pour des raisons matérielles, c'est-à-dire qu'il y a eu ce truc-là, et il y a le côté effectivement culturel et tout, mais il y a eu aussi des raisons matérielles qui est que tout simplement il y a eu des mauvaises récoltes à un moment et que la patate était le seul truc qui poussait.
Et donc, tu as beau pousser dans la terre à un moment quand t'as faim, tu
bouges. Bah, c'est ça, c'est qu'en fait, il y a la conjonction de le truc arrive, il est hypé, et en même temps, ça répond pile à un besoin, et donc ça s'engouffre. Et l'IA, quelque part, aujourd'hui, peut-être, aussi est dans ce côté-là. C'est-à-dire
point ça tombe au bon moment pour des bons trucs.
Il y a tellement d'informations accumulées à l'échelle de la société entière, la noosphère, comme dirait, je sais plus comment s'appelle le type qui a développé ce truc-là, mais en gros, toutes les idées de l'humanité sont tellement grandes qu'en fait, on n'est même plus dans une problématique de qu'elle soit consignée quelque part, mais dans la problématique de pouvoir y accéder et de pouvoir rendre ça intelligible, et que du coup l'IA quelque part répond à ce besoin-là d'intelligibilité de l'information, de mise à disposition, etc. Ce qu'a fait les moteurs de recherche à son époque aussi d'une certaine manière.
Bah oui.
Message à caractère philosophique là, attention.
Ah mais il y a d'autres. Il y a un épisode que
vous m'avez invité, ça a parlé philo. Hein.
Ah bah, très bien.
Et c'est par les mêmes histoires, c'est génial. Bon.
On a pas trop de mal à trouver le titre.
Ah oui. On va l'essayer de trouver un bon titre.
Les patates de l'IA. Ah non, je sais, il faut trouver le, comme pour les patates, il faut trouver la frite de l'IA pour que tout le monde en mange.
Et plus,
si je mets ma carte Nvidia dans du gras de bœuf, est-ce que ça marche?
Et plus, si
tu l'as pas essayé, tu peux pas.
Ça va, on a fait que 3 liens et on est à 40 minutes.
C'est ça. Et s'il y a des patates, notre CTO va adorer. Vous savez,
oui, effectivement.
Bon. Un dernier lien sur la IA, après on change, je vous promets, c'est un super article sorti récemment qui explique comment maintenant tous les grands modèles vont vous proposer 1 million de tokens, 500 000 tokens, et comment en fait, ça ne veut pas dire que mettre 1 million de tokens dans ton contexte soit une bonne idée. et qui explique par A plus B comment, même si le système les supporte, dès qu'il y a le moindre problème, la moindre hallucination qui rentre dans ce contexte d'un million de tokens, le fait que le contexte soit si grand, ça va te pénaliser. Et qui revient à ce qu'on disait de la jam.md, de des fois il vaut mieux d'avoir des contextes plus petits avec un essentiel maîtrisé qu'un contexte d'un million de tokens dans lequel il y a peut-être quelques trucs inexacts qui vont t'empoisonner sans te rendre compte le reste. Et donc il vaut mieux fermer sa fenêtre Claude, Gemini, whatever, et recommencer plutôt que garder la conversation ouverte pendant des jours et des jours.
Comment tu sais, comment tu détectes que t'es empoisonné? Parce que tu vois, c'est tu vois les biais, quoi.
Bah là, par exemple, ils ont fait, et l'article l'explique, un exemple autour des Pokémon. Ils ont fait un LLM jouer à un jeu Pokémon et essayer de trouver des stratégies innovantes. Et ils ont analysé les stratégies, ce qu'il y a dans le contexte, les stratégies qu'il fait. Et ils ont vu comme une fois qu'il a halluciné, ensuite, cette hallucination, ils la prennent en compte aux mêmes valeurs que les prompts que tu mets, et ça biaise complètement, et le truc, il était incapable de s'en sortir. Et plus, il hallucinait, ça revenait, et à un moment donné, ça finit par boucler. Et il y a plein d'exemples de différents d'empoisonnement qu'ils ont détecté. Moi, personnellement, ce que j'ai vu, c'est ça, c'est qu'on parlait avant, je voulais garder ma fenêtre ouverte un maximum de temps pour le contexte, et au bout d'un moment, c'était contre-productif, mais j'avais la flemme de fermer. Et donc, effectivement, il y a un moment où il vaut mieux garder peu d'informations, mais essentielles, plutôt que essayer de garder tout, même si théoriquement, il y a de la place. Et la première fois qu'on a vu ça, au moins côté Clever, c'était quand Gemini, c'était le premier à avoir un million de tokens, les résultats étaient beaucoup moins bons que même avant d'un million de tokens. Tu dis, il devrait être mieux. Ah non, en fait, non.
Wow. C'est pour ça, moi quand je fais quand j'utilise pas mal de LLM pour coder, en fait, ce que je fais, c'est que je le fais itérer dans un fichier de spec un peu détaillé, où je lui demande vraiment de détailler, et à chaque fois je clear mon state et je lui dis vas-y, relis le document, regarde s'il y a des trucs qui vont pas et rajoute des trucs. Et donc en fait j'avoue que moi je clear énormément mon state tout le temps, enfin mon contexte pardon,
c'est ça,
pour pouvoir itérer sur un markdown. J'ai un markdown à côté en fait qui me sert de to do slash
spec. C'est le rôle d'un agent.md quelque part, c'est...
Alors, moi, je le fais au niveau de la tâche. C'est-à-dire, tu vois, quand il a une tâche à faire, elle est découpée, il y a les traits, les structs. Enfin, tu vois, c'est un...
Moi, il y a un point à la fin, c'est un in-tête que cette tâche dans laquelle il explique les tâches à faire et on fait le suivi de la tâche. C'est pour ça que je te dis qu'il les met à jour. Mais okay, c'est carrément ça. Il vaut mieux être assez atomique et lui donner la bonne information et que la bonne information. Mais moi, c'était un truc intuitif et l'article... Bah, quelque part, il confirme cette intuition-là et il va plus loin. L'article, c'est une lecture passionnante. Allez, on va changer de sujet. Tiens, j'y vais. Désolé, tu m'avais dit que tu étais la bonne personne pour parler parce que moi, j'avais vu. Tiens, il y a des améliorations sur la swap de Linux pour de meilleures performances. Mince, qu'est-ce que je vais pouvoir dire de pertinent sur ça? C'est vraiment pas mon rayon. Et il y a JV qui me dit « Ah si, moi je l'avais lu et j'ai le lien quelque part, donc désolé, mais racontez !»
Aïe, aïe, ça m'apprendra d'avoir le flux RSS de la mailing list du kernel. Globalement, c'est une modification de l'implémentation, pardon ?
Non, le problème c'est de l'avoir dit en public, mais vas-y, continue.
La problématique du coup, c'était au niveau de la swap dans le kernel, où l'implémentation a été changée vers un système de table. Et donc, du coup, l'idée, c'était donc d'avoir une forme de cache au niveau de la swap et d'avoir un changement au niveau de l'implémentation de l'allocateur pour avoir quelque chose de plus performant. Et donc, de changer la mécanique, on va dire, la mécanique et l'implémentation de l'architecture de la swap, et tout le subsystème a été donc un peu rework de manière importante. Et donc c'est un procès de changement en plusieurs phases. Et là, c'est une première phase avec plusieurs patchs qui viennent modifier des implémentations tout en restant compatibles avec d'autres bouts. Et l'idée, c'est une target autour de 15-20% d'amélioration de performance sur des benchmarks. Voilà. Et donc voilà. L'idée, c'est d'améliorer les performances de la swap. Et ça a un intérêt principalement pour tout ce qui est base de données clé valeur ou de manière générale base de données in memory. Mm-hmm. La plupart sont clé valeur, mais voilà. L'objectif, c'est de pouvoir améliorer la performance des swaps pour améliorer la performance des DB et des systèmes qui sont très intensifs en mémoire.
Et dans les compiles aussi.
Oui, effectivement, les compilateurs.
Ça marche aussi quand tu compiles des gros projets et que tu es obligé de swapper pour
survivre. Oui, effectivement. Tout le monde n'a pas la chance d'avoir 64 gigas de RAM.
Des fois, ça suffit pas. Hein.
C'est vrai, des fois, ça suffit pas. C'est vrai que l'utilisateur de FondationDB qui est là, à mon avis, il a besoin de 200 téra de RAM pour pouvoir compiler son truc.
Ouais, il est très biaisé sur ses usages quand même.
Moi, je suis biaisé sur mon usage quand alors, on compile pas Fondation tous les 4 matins. Mais c'est simple, le ratio, c'est 8 gigas par cœur de compile. Donc, tu as un trade-off, tu vois, de temps.
pas mal.
Ok. Nickel. Bon, bah, merci. Une explication claire, j'aurais pas été capable de la faire. Merci, Guillet. Et maintenant, j'ai vu un autre lien autour de SurrealDB. Qui a l'ami?
Oui, c'est moi.
Je demande qui a pu le mettre. Déjà, alors, raconte-nous qu'est-ce que c'est SurrealDB, s'il te plaît, pour commencer.
SurrealDB, c'est une base de données clé valeur, documents, graphes, et qui aussi a des fonctionnalités de watch, et de tu peux faire des événements via des procédures stockées également. Donc c'est une base de données multimodèle orientée autour de l'IA un petit peu maintenant, mais comme tout le monde avec la hype.
Et on peut brancher plusieurs back-ends de stockage. Donc, il y a un back-end de RocksDB, il y a un back-end de TIKV, qui est le back-end derrière TidyDB des gens de chez PinCap, et il y a un back-end Fondation d'ailleurs, derrière. Et il y a un blog post qui est sorti il y a 2 semaines, qui a un peu fait du bruit, parce que, en gros, quand vous utilisez n'importe quel back-end local, donc pas un truc distribué, genre Fondation ou TIKV, et ben si l'option par défaut était unsafe, donc en fait vous pouviez avoir des corruptions de data.
Pourquoi ?
Parce qu'ils ont désactivé le fait de faire le F-Sync pour les benches, pour que ça aille
plus vite.
Ça a marché beaucoup moins bien maintenant.
Ah bah, c'était très rapide.
Bon. C'est beaucoup plus rapide. Hein.
C'est pas ce que t'as à la fin, mais c'est très rapide.
Moi, ça me fait rire, ces gens-là qui désactivent les F-Sync. Mais il y a eu la même, hein. on rigole sur une base de données, mais il y a eu un build de Windows 11 qui avait le même problème. Genre une release entière de Windows 11 où en fait c'est un problème de F-Sync et du coup des fois tu pouvais niquer tes fichiers et les corrompre.
C'est donc sympa quand même.
Non mais on a retiré les freins, on a gagné 50 kilos.
Ouais. Exactement ça.
Et c'était confirmé que c'était fait pour des ces raisons-là. Ça serait très malhonnête quelque part.
Mais je crois que c'est pour les benches. Hein.
Oh la vache, ah, c'est moche.
Surtout que quand tu développes une base de données, genre le problème de gérer le F-Sync, c'est quasiment genre un boulot à plein temps, tu vois. Donc du coup, ça me paraît toujours bizarre d'avoir des gens. Donc par contre, le fixe est assez simple, c'est qu'ils savent ils savaient très bien ce qu'ils faisaient parce que tu as une variable d'env à activer pour activer le F-Sync qui a false par défaut.
Oh punaise.
C'est des ouf.
Ok. Côté éthique de l'approche, je ne me prononcerai pas, mais c'est quand même assez ouf.
Ouais, tu peux désactiver, hein, mais le mettre en default à false.
Bah, surtout que tu sais que dans plein d'applications, c'est les paramètres par default qui vont finir en prod. Et statistiquement, on le sait, donc. Ok.
Bref.
Bon, on est encore bavard. Je pense qu'une dernière news, et cette fois, bah, c'est une news que, côté Clever, on a trouvé très étonnante. Parce qu'il y a un article de blog qui a paru une semaine dernière autour d'un de nos projets open source, Saussure, notre load balancer, et qui nous donne des informations qui nous sont étonnées, on va dire. Con quoi, parmi les utilisateurs de Saussure, il y aurait Scaleway, par exemple.
Tu rentres déjà dans le troll, Horatio.
Non, pas dans le troll. Écoute, c'est chouette d'apprendre des choses comme ça par un article de blog. Par contre, si vous savez de quoi nous confirmer ces informations-là, on est plus que preneur. On adorerait savoir qui utilise Saussure aujourd'hui en production. Et bah, voilà, autant être au courant. Après,
on peut peut-être parler du blog post.
Allez.
JB, tu veux faire ou tu...
Non, vas-y.
C'est vrai que ouais, le load balancer, c'est très loin de mon domaine. Hein. Mais en gros, chez Clever Cloud, chez Clever Cloud, on a notre propre load balancer. Donc, c'était à l'époque, le travail avait été commencé en 2017-2018. En gros, le problème, c'est qu'on avait en prod, enfin, que Clever avait en prod, c'était que quand on fait un hot reload de HAProxy, qu'en fait, il garde des instances du vieux HAProxy tant que les connexions sont pas coupées. Et donc, en fait, on se retrouve avec des plein de vieux process HAProxy. Donc, en fait, le hot reload, c'était un sujet qui était compliqué à Clever. Et donc, on a commencé à travailler sur un load balancer qui était vraiment sizé pour notre besoin, donc notamment le hot reload. Donc, ça s'appelle Saussure, qui est open source. Aujourd'hui, c'est ce qui power l'intégralité de notre trafic HTTP. Donc, ça, c'est plutôt chouette. Et cet article de blog, donc on connaît pas la personne qui l'a écrit. Enfin, à ma connaissance, on connaît pas la personne qui l'a écrit. Et du coup, il a fourni un petit bench où du coup, il parle de Saussure et il fait un petit bench entre Saussure, Nginx et HAProxy. Et du coup, plutôt chouette puisqu'on a Saussure qui atterrit avant dans les benches devant Nginx et HAProxy en termes de nombre de requests par seconde de CPU et de RAM utilisés.
Et même la latence, il est plus faible la latence. Ouais. Les sont vraiment très.
Et il parle aussi des petits trucs qui sont sympas, c'est que du coup, on supporte TLS 1.3, on a des ciphers un peu plus modernes que du HAProxy. Donc l'article est plutôt chouette, ça fait plaisir de voir des articles sur des gens qui utilisent nos logiciels en open source. J'émets un doute juste sur la liste des entreprises qui utilisent Saussure dans le blog post parce que il parle de Scaleway et Datadog et moi je suis pas au courant mais
donc c'est
un insider. Moi je pense que là on peut aller chercher savoir qui c'est qui.
Si vous avez des infos, vous êtes en mesure de nous confirmer, on serait ravis. Et si vous travaillez chez Scaleway et ou chez Datadog et vous l'utilisez et vous voulez venir en parler à un prochain Massy, vous avez donc déjà votre invitation pour venir et on se fera super plaisir à vous recevoir, carrément. En attendant, pour ajouter au mystère, il semble que la page...
Moi, j'ai réussi à charger le HTML, mais pas le CSS.
Il ne charge pas, et quand ça charge, il n'y a pas de CSS. Donc,
aïe, aïe.
Histoire
à Saussure qui n'a pas réussi à loader le CSS.
Histoire à suivre.
Ouais,
on se retrouve à nouveau à 55 minutes de podcast. On est bon, les amis.
Pas mal, ouais.
Et L'épisode précédent, Nicolas nous avait proposé une musique de fan étonnante, une playlist pour chanter en voiture. Donc aujourd'hui, ça va devoir être un de vous deux, Pierre ou Olivier, de nous proposer quelque chose.
Moi, j'ai une musique.
Vous voulez nous proposer
moi aussi.
Une musique de
fan. Bon, bah, vas-y, Horatio, utilise ton dépipé et t'as, comme tu fais, père ou impair. Père ou impair. Non, il lance un vrai dé. Fais pas ça. Père ou impair, JB.
Père.
Ok. Hop. Vous voyez, van.
Let's go, réussite critique.
Réussite critique.
Du coup, alors c'est une musique un peu spéciale puisqu'il s'agit d'un. J'aime beaucoup les polyphonies et particulièrement les chants corses. Et c'est une musique qui est faite à deux langues puisque c'est à la fois corse et basque.
Oh.
Et c'est une musique entre deux, donc avec le groupe, avec un groupe corse et un groupe basque qui ont fait une chanson ensemble qui s'appelle, je vais essayer de bien la prononcer, Askata Tsunera. Et c'est voilà. Et c'est un morceau que j'aime beaucoup et c'est donc dans le style, on va dire, du chant corse polyphonique, etc.
Trop bien.
Il faut que tu nous donnes les liens dans les documents parce que
oui,
là...
Oui.
Nickel.
Voilà.
Bon, bah, donc avec ces consonances corse-basque, on va vous laisser après cet épisode. Merci encore, Nicolas. Merci, Pierre.
Merci.
Jean-Baptiste. Et merci à tous de nous écouter. À très bientôt.
Salut.
À bientôt.
À bientôt.
Anaya.